Bonsoir. Je vous invite à préparer vos Bibles dans le livre de Jérémie, au chapitre 17. J'ai vraiment à cœur ce soir de prendre avec vous un message, de faire un partage avec vous sur ce sujet. On pourrait donner ce titre, « Quel sera ton avenir ?» Une simple question, « Quel sera ton avenir ?» Je ne vais pas parler de la bonne aventure ce soir, c'est pas... Mon intérêt, c'est même pas possible. Simplement, qu'on puisse repartir avec cette possibilité de répondre à cette question. Quel sera mon avenir? Qu'est-ce qu'il en sera pour moi dans le futur? Alors, vous avez vos Bibles, donc, dans Jérémie, chapitre 17 et au verset 5. Il est dit ceci, « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Amen. On continue notre lecture dans le chapitre 29 du même livre. Jérémie, chapitre 29 et verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Au verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Amen. Et on continue une dernière lecture. Je vous fais travailler ce soir dans le livre des Proverbes au chapitre 31. Proverbe chapitre 31 et au verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Et au verset 25. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Amen. On va incliner nos fronts encore, demander toute sa grâce au Seigneur pour nous ce soir. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, nous réalisons ta présence. Ces moments sont sérieux, non pas parce que nous sommes quelques-uns, non pas parce que nous serions accompagnés d'une personne importante ce soir autre que toi, mais vraiment parce que c'est toi qui es au milieu de nous par ton esprit. Nos yeux physiques ne te voient point, mais nos cœurs peuvent te discerner ta présence, peuvent comprendre que tu es là, puisque tu es celui qui veut te révéler au cœur, celui qui veut parler à un cœur ce soir. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu vas faire. Nous te demandons d'agir dans chacun des cœurs, que nous puissions repartir avec cette assurance que nous avons un avenir dans tes mains, de l'espérance, de la paix qui nous attend et qui nous accompagne dès aujourd'hui, qui peut le faire en tout cas, parce que tu es grand et c'est ce que tu veux répondre dans chaque cœur, pour chaque personne. Que ton nom soit béni encore pour ce que tu vas faire ce soir. Amen. Amen. Donc j'ai pris ces quelques textes pour vous faire réfléchir et vous préparer, vous montrer ce que Dieu dit lui-même. Dans Jérémie, on a lu le premier texte, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'espérance est l'Éternel. » Dont l'Éternel est l'espérance. Il y a le texte d'après qui disait que Dieu avait des projets de paix et non de malheur. En tout cas, il l'a dit au peuple d'Israël en son temps, ce peuple qui s'était rebellé envers Dieu, Dieu qui avait fait tant de choses pour lui, ce peuple va se rebeller, il va commencer à se détourner de Dieu, aller vers les idoles, et Dieu va pourtant lui parler. Alors qu'ils sont emmenés en captivité chez les Babyloniens, on sait que cette nation a existé, on en a encore les ruines aujourd'hui, et on voit que le peuple hébreu, le peuple de Dieu, a été emmené dans cette nation par le roi de Babylone, et ils sont devenus esclaves, et Dieu va encore parler à leur cœur. Il va dire, voilà, j'ai des projets pour toi, j'ai des projets de paix, et non de malheur, j'ai même un avenir pour toi et de l'espérance. Pourtant, le peuple était là, prisonnier, esclave. On pourrait dire, mais il n'y avait plus d'espoir pour lui. Mais Dieu va parler par la bouche du prophète et lui dire, « Moi, j'ai quelque chose pour toi. Dans quelque temps, tu sortiras, tu vas me prier, tu vas m'invoquer et je te délivrerai. » Peut-être quelqu'un est là ce soir et il se demande quel sera son avenir. Il n'a pas confiance en l'avenir. Il s'inquiète. J'aimerais vous dire que Dieu a des projets pour vous. Il voudrait vous emmener dans des projets de paix, non de malheur. Vous donner un avenir, une espérance dans votre cœur qui ne vous quittera jamais. La Bible décrit deux espérances, deux avenirs, en tout cas deux chemins possibles pour l'homme, non pas seulement sur cette terre, mais jusque dans l'éternité, puisque la Bible nous dit que nous avons une vie sur la terre, mais qu'il y aura quelque chose après la mort. Cette vie continuera, il y aura ce qu'on appelle l'éternité. Et soit on passera l'éternité en enfer, soit on passera l'éternité avec Dieu. Il y a deux chemins, un maudit et un béni. Et il nous parle, toute la parole nous interpelle pour que nous fassions le bon choix, parce que c'est à nous que revient le choix. Et même si Dieu dit, voilà, confie-toi en moi, celui qui se confie en l'homme, celui qui se confie en lui-même, il ne va pas aller au paradis, mais il va aller en enfer, celui qui ne fait aucun cas de Dieu. Mais celui qui se confie en moi, alors il pourra avoir le ciel qui lui sera ouvert. Et malgré cette bonne nouvelle, malgré cette Bible, la parole de Dieu, eh bien l'homme choisit de ne pas aller vers Dieu. On le voit dans la rue, si vous interpellez quelqu'un, il va vous prendre pour quelqu'un de bizarre, il va vous dire qui c'est celui-là, qui me parle comme ça. Mais si vous interpellez les gens comme ça, vous leur dites, est-ce que vous réalisez que Dieu vous aime ? Soit il vous regardera comme ça, soit il va vous dire, oui, j'ai même une religion, regardez, j'ai une croix, un pendentif. Mais rares sont ceux qui connaissent vraiment Jésus, qui connaissent le Fils de Dieu, qui connaissent Dieu personnellement et qui ont une relation avec lui quotidienne, qui lisent la Bible quotidiennement. Rares sont ceux-là. L'homme ne veut pas de Dieu dans notre monde. On voit qu'un président qui a des idées, des projets opposés à ceux de Dieu passe sans encombre dans notre monde, dans notre pays, pour parler de notre pays. Il met en avant des projets qui sont condamnés par Dieu, qui sont en abomination aux yeux de Dieu, et pourtant, la moitié du pays vote pour lui. Je ne veux pas jeter la pierre, mais je veux mettre en évidence une réalité. Le monde ne veut pas de Dieu. Et alors que Dieu propose au monde d'être béni par lui, le monde va se tourner vers d'autres dieux, vers des idoles, et même vers le péché tout simplement. On va regarder le cas de quelqu'un, d'un homme. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles dans le deuxième livre des Rois. Deux Rois, au chapitre 1 et au... C'était lundi matin, je lisais la parole, et je suis arrivé à ce texte. Quelque chose m'a sauté aux yeux. Deuxième livre des Rois, chapitre 1 et verset 1, il est dit ceci, « Moab se révolta contre Israël. » Moab, c'est un pays. « Après la mort d'Achab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. » Je vous remets un peu le contexte. Il nous est parlé ici de l'histoire du peuple d'Israël. Moab, c'était des gens qui avaient été assujettis par Israël, qui étaient les esclaves d'Israël. Et ils se sont révoltés contre Israël lorsque son roi est décédé. C'était Achab. Et le deuxième roi, celui qui a succédé à Achab, c'est Akazia. Et alors qu'Akazia régnait, il est tombé par la fenêtre de la chambre haute. Et il en fut, le mot utilisé malade veut dire blessé. Il est tombé de la fenêtre, il s'est blessé. Il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette blessure. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron ? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit, « Pourquoi revenez-vous ? » Ils lui répondirent, « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, « Allez !» Retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui. Ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron ? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ? Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Akazia dit, c'est Élie, le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était sur le sommet de la montagne, assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, descends. » Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. » Akasia envoya de nouveau vers l'Éternel un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. » Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akasia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta, et à son arrivée, il fléchit le genou devant Élie et lui dit en suppliant, « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. » L'ange de l'Éternel dit à Élie, « Descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. » Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébuth, dieu des crons, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Akasia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie, et on peut dire « Amen ». Est-ce que vous êtes arrivés à retenir tous? Je vous résume vite fait l'histoire. Le roi d'Israël, le roi du peuple de Dieu, celui qui est le mieux à même normalement de connaître Dieu, de savoir ce que Dieu veut de son peuple. Celui-là, ce roi-là, va se blesser en tombant de sa fenêtre, et alors qu'il est sur un lit alité, blessé gravement, il va avoir l'idée lumineuse, on peut dire, avec ironie, d'aller consulter un dieu étranger dans tel pays. Et il envoie des messagers. Élie, cet homme qui est prophète de l'Éternel, c'est-à-dire représentant de Dieu sur la terre, à ce moment-là, va venir vers ses messagers et leur dire « Comment ça se fait que votre roi, qui sait que Dieu existe, qui sait qu'il y a un Dieu en Israël, lui qui a fait tant de miracles, comment ça se fait qu'il va chercher la parole et qu'il va consulter un autre Dieu, alors comme s'il n'y avait pas de Dieu en Israël, comme si moi je n'existais pas ?» Alors Élie va dire « Voilà ce que dit l'Éternel. Puisqu'il a fait ça, il ne se lèvera plus et il mourra de ses blessures. » Les messagers vont dire ça au roi et le roi, en colère, va demander à un chef d'une petite armée de 50 personnes d'aller chercher Élie et de faire comme ça a été fait dans les précédents chapitres de la Bible, de tuer ce prophète. C'est ça en fait qu'il fallait qu'il se passe. Et on le voit en fait quand l'ange dit à Élie, « Va, ne crains pas cet homme. » C'est pas, on le voit pas forcément en première lecture, mais ce que devait faire ce chef, c'est de ramener Élie pour le tuer devant le roi, sous l'ordre du roi. Comme ça s'est fait du temps de Jean, qui a repris le roi pour une erreur qu'il a faite, un péché qu'il a commis, et qui s'est fait décapiter par le roi. C'était la même chose qui devait lui arriver. Et quand ce chef vient avec ses 50 hommes et lui dit « Descends !» Élie lui dit « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel. » Le feu descend. Ce chef, ces 50 hommes, qui cautionnaient ce que le roi avait fait, périt et brûle. Deuxième chef, qui monte, envoyé toujours par le roi, il arrive la même chose. Lui, il y va encore plus d'aplomb. Le roi dit ça, hâte-toi de descendre. Il lui répond la même chose, il se passe la même chose. Mais il y a un troisième chef qui arrive et qui, lui, va agir différemment. J'aimerais qu'on tire enseignement de ce texte. Ce soir, je ne parlerai pas forcément au nouveau, je parlerai à chacun. Parce que pour moi, c'est important que chaque fois qu'on vienne à l'église, tous, on puisse comprendre ce que Dieu veut pour notre vie. Parce que Dieu nous a donné le privilège, parce qu'il nous aime, de nous dire, de partager avec nous ce qu'il veut pour nos vies, la manière dont il veut qu'on marche dans notre vie. Si Dieu a donné la vie à l'homme, c'est pour une bonne cause, pour faire des choses qui lui conviennent et qu'il a choisi d'avance. À nous de décider de lui obéir ou pas. La première chose qu'il me semble important de dire ce soir, c'est que Dieu a horreur du péché. Le péché, le mensonge, qu'importe le péché, qu'importe l'offense qu'on peut faire à Dieu, si à nos yeux elle est petite, Dieu dit qu'il n'y a pas de gros et de petits péchés. Il y a le péché. Et face à sa sainteté, l'homme est responsable de ses erreurs, de ses offenses, de sa désobéissance. Et si pour nous le péché, c'est pas grave, hein, oh, c'est pas grave, ça arrive, c'est humain comme on dit, Dieu dit que pour chaque péché, il faut une réparation. C'est important. Il faut comprendre ça. Et le péché dont il est question dans ce texte, c'est l'idolâtrie, la voyance, toutes ces choses. Dans le monde, c'est banalisé. Vous ouvrez n'importe quel programme télévisé, vous avez une page avec l'horoscope. C'est pas vrai ? Vous avez une page en disant, voilà votre signe, eh bien voilà ce qui va vous arriver, voilà l'avenir. Parce que les hommes ont besoin d'être rassurés, hommes ou femmes, hommes avec un grand H. Et puis les gens ont soif de savoir ce qui va leur arriver demain. Et alors ils vont dans les magazines ouvrir la première page pour la semaine, voilà vite vite l'horoscope, et voilà ce qui va m'arriver. Ah, aujourd'hui, si vous sortez par tel temps, ou si vous mettez telle veste, ou j'en sais rien, il va vous arriver du bonheur, les astres disent ceci, cela. Et les gens ils suivent, ils ont soif de ça. Les gens, quand ils ont un souci, quand ils ont une question, ils vont vite voir une voyante ou un voyant. Voilà, Madame Soleil, Madame ceci, Monsieur cela. Eh bien, dites-moi, quel sera mon avenir? Lisez dans mes mains. C'est banalisé aujourd'hui. Même il y a des jeux dans les maternelles, dans les écoles, des jeux pour connaître l'avenir. Des jeux où les gens font tourner les tables. Même les jeunes, les enfants font tourner les tables, invoquent les esprits, etc. Et on croit que ça fait rien, c'est pas grave. Je connais quelqu'un un jour qui a demandé à une autorité religieuse, pour pas citer la religion, c'est pas là mon but et mon intérêt, je n'aime pas ça. Mais une autorité religieuse, il lui demande, voilà, est-ce que c'est grave de faire de la voyance? Et puis cette autorité commence à lui dire, mais non, du moment que c'est pas pour faire le mal et que c'est pas pour un business. Du moment que c'est pas pour le malheur des gens, c'est pas grave. Et cette personne, elle est repartie. Comme elle est venue, seulement au bout de plusieurs années, elle a commencé à être malheureuse, prise d'angoisse, etc. C'est le retour de la manivelle. D'autres personnes croient qu'on peut avoir de la bonne magie. Il y a la magie blanche, il y a la magie noire. Encore dernièrement, je parlais avec quelqu'un, et elle me dit, mais c'est pas grave si c'est de la magie blanche. J'étais obligé de lire avec elle ce texte que je vous invite à prendre. Dans Deutéronome, chapitre 18 et au verset 9. Pour moi, c'est vraiment important. Ça fait plusieurs semaines que je réalise, en parlant avec les gens, que beaucoup de gens ne sont pas au courant. Et pour que cette chose soit rectifiée, il m'incombe de vraiment vous parler de ces choses. Moi aussi, j'ai dû les apprendre, et tous, on a besoin de les apprendre un jour ou l'autre. Mais voilà ce que Dieu pense du spiritisme, de l'occultisme, de la magie et toutes ces choses. Regardez, Deutéronome, chapitre 18 et verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Que l'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Jusque-là, on est tous à peu près d'accord. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Voilà ce que Dieu pense de ces choses. C'est une abomination. Dieu a horreur des petites croix qu'on porte en pendentif. Je vous dis ça, vraiment, Dieu n'aime pas ces choses. Parce que les gens, ils portent ça comme un porte-bonheur. Et Dieu a horreur de la superstition. Quand on attribue à un petit bout de métal, ou un petit bout de bois, ou quoi que ce soit, un pouvoir. Dieu, il n'aime pas ces choses. Peut-être que vous allez dire, mais moi j'ai jamais vu de voyante, j'ai jamais vu tout ça, j'ai jamais fait de magie, j'ai jamais parlé aux morts, j'ai jamais invoqué les démons. J'aimerais vous parler aussi des statues. Dieu ne veut pas qu'on se prosterne devant une statue. Dieu ne veut même pas qu'on fasse de statue des choses, du ciel, de la terre et de la mer. Il a en horreur ces choses aussi. Je vous étonne peut-être, si vous avez une statue de Marie chez vous, jetez-la, brûlez-la, faites ce que vous voulez, mais ne la gardez pas. C'est en abomination aux yeux de Dieu, ça attire la colère de Dieu, comme tout péché. Ça attire la colère de Dieu. Et je vais vous le lire parce que je n'ai pas besoin que vous me croyiez à moi. Ce qu'il faut croire, c'est Dieu. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors prenez Deutéronome chapitre 5 et verset 8. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères, etc. Dieu n'aime pas qu'on fasse de statue et qu'on se prosterne devant elle. Vous allez me dire, mais moi c'est une statue de Jésus. Eh bien c'est pareil. C'est pareil. Dieu préfère qu'on l'adore à lui directement, qu'on se prosterne dans sa présence, devant lui de tout notre cœur. Pas besoin d'un bout de bois en forme de Jésus, ou d'un bout de pierre, ou d'un bout de métal. Le Seigneur a cela en abomination. Et je vous le lis moi pour gagner un peu de temps, dans Deutéronome 27 au verset 15. « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée, c'est-à-dire qui fait une petite idole ou une petite statue, ou une image en métal fondu, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira « Amen ». Dieu n'aime pas ces choses, et ça attire la colère de Dieu. Quand quelqu'un se confie en un petit bout de bois, en une statue, en un petit bout de croix, et on est là et on garde ça et près de nous, et tant qu'on l'a, on se croit en sécurité. J'aimerais vous dire, même si vous preniez la Bible et que vous la serriez comme ça, et que vous marcheriez avec ça, ce n'est pas ce bout de feuille, ce rassemblement de feuilles ou ces pages qui vont vous porter bonheur. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui vous donnera du bonheur, c'est d'obéir à ce qui est écrit dedans et qui vient de Dieu, et d'avoir une relation avec Dieu directement, sans intermédiaire. Dieu n'aime pas l'idolâtrie, la voyance, la superstition, toutes ces choses, ça déplaît à Dieu, et pire que déplaire simplement, ça attire la colère de Dieu. Voilà pourquoi Dieu va dire à ce roi, tu ne guériras pas, tu mourras. Croyez-vous que ce roi aurait pu prier le Seigneur ? Seigneur, tu vois, je suis tombé, je me suis blessé grièvement, est-ce que tu peux me guérir ? Guéris-moi s'il te plaît. Est-ce que Dieu aurait pu le faire ? Oui, il aurait pu demander directement à Dieu. Il savait en plus qu'il était roi du peuple de Dieu. Mieux placé que lui, il avait même une copie de Deutéronome, ce qu'on vient de lire. Il l'avait, puisque chaque roi obtenait une copie du texte lorsqu'il était sacré roi, sacré entre guillemets, lorsqu'il était roi d'Israël, qu'il devenait roi d'Israël. Et cet homme, il n'a pas pris la peine d'obéir à la loi de Dieu, au conseil divin. Il a préféré aller consulter un dieu d'un pays quelconque qui en fait n'en était pas un, puisque Dieu dit aussi dans sa parole qu'il est le seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux, il n'en a qu'un. Et c'est même un dieu jaloux, il va dire. Je suis un dieu jaloux, je veux que vous m'adoriez à moi. C'est un péché qui attire la colère. Voilà pourquoi ce roi n'a pas pu être guéri. Et voilà pourquoi les deux premiers chefs et les 50 qui cautionnaient le roi, qui sont allés au nom du roi et qui allaient pour s'en prendre à l'homme de Dieu, qui a fait remarquer la chose, voilà pourquoi il y a eu cette condamnation. Vous avez vu comme c'est sévère quand même. Le roi, il meurt et le feu descend directement du ciel pour consumer ces deux chefs. Ces deux chefs aussi savaient très bien qu'est-ce qu'elle disait la loi, mais ils allaient quand même s'en prendre au prophète, à celui qui, lui, obéissait à Dieu. Donc Dieu est en colère contre ces choses. Ne vous attachez pas à un bout de métal, à un bout de bois, à un bout de pierre. Ça ne vous apporterait rien. Apportez-vous, approchez-vous et attachez-vous à Dieu et à sa parole. Pas besoin pour notre avenir de regarder l'horoscope. En plus, entre nous, l'horoscope, ça ne change rien. Combien même ça serait vrai, ce qui est faux. Combien même ça serait vrai, ce qui est dit. Ben, on saurait juste ce qui va nous arriver. Et si c'est dit malheur, alors on va vivre dans l'angoisse. Mais il ne peut rien changer l'horoscope. Alors que Dieu dit qu'il est maître des temps et des circonstances. Et qu'il a pour nous un avenir de l'espérance. Ça serait bête de passer à côté. La deuxième chose maintenant que je voudrais vraiment faire remarquer concernant ces chefs, c'est que chacun s'est retrouvé dans un état particulier qui peut correspondre à l'état de quelqu'un, peut-être de tous, parmi nous. Je vais m'expliquer, parce que c'est un peu compliqué, dit comme ça. Le premier chef, lisez-le avec moi, relisez-le. Comment il vient ? Alors, verset 9. Il envoya, donc le roi envoya vers Élie, un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Est-ce que cet homme savait ce qui allait lui arriver ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il se doutait, en allant chercher Élie, pour lui faire du mal, ce qui allait lui arriver ? Ah, moi, je crois. Comment on appelle ça, quand on ne sait pas ? L'ignorance. Il était dans un état d'ignorance. Et peut-être quelqu'un dit, mais moi, je ne vais pas être condamné. Je ne suis pas censé savoir ce qui m'est arrivé. Vous savez, des fois, on parle aux gens autour de nous. On essaie de partager la bonne nouvelle qu'on a, la paix qu'on a reçue en Jésus. On essaie de le partager simplement en proposant aux gens de discuter avec eux. Et souvent, des gens disent, non, j'en veux pas. Des gens, des fois, on leur propose une Bible. Tenez, c'est la parole de Dieu ou un évangile. Non, j'en veux pas. Et il y en a même, moi, il y en a qui me l'ont dit. Comme ça, je pourrais dire à Dieu, je ne savais pas. Vous savez jusqu'où va la réflexion quand même. Hein? Au moins, je ne savais pas. J'étais ignorant. La Bible nous dit ceci, concernant l'ignorance, c'est que personne ne pourra dire, je suis excusable, je ne savais pas. Je vais vous lire un passage, c'est dans Romains 1. Romains chapitre 1 et au verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. Là, ça représente le péché passif et le péché actif. Passif dans quel sens? L'impiété, c'est celui qui a du mépris pour les choses religieuses, c'est-à-dire qu'il n'en fait aucun cas. À la limite, on pourrait dire, il ne fait pas le bien. Il ne fait pas de mal non plus, juste, il reste en dehors. Il a du mépris, c'est-à-dire qu'il a de l'indifférence pour les choses de Dieu. Et l'injustice, c'est ce qu'on fait de mal. Donc ce qu'on ne fait pas de bien et ce qu'on fait de mal. La colère de Dieu se révèle contre ces choses, contre ces hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Tiens, ils sont au courant. Pourquoi? Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. En français courant, traduit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne ne peut dire « j'étais pas au courant, je savais pas qu'il y avait un Dieu ». Pourquoi? Parce que toute la nature, la création, la manière dont lorsque vous semez une graine, elle meurt à elle-même, elle pousse, elle grandit, elle porte à son tour du fruit qui, en son sein, à son tour une graine, etc. La manière dont un bébé se développe dans le ventre d'une maman. La manière dont les papillons sont recouverts de plumes sur leurs ailes, ce qui leur permet de voler. Et toutes ces choses, c'est bien la preuve que Dieu existe. Et ça, on peut tous le voir, ou le sentir, ou le toucher. Parce que Dieu, il nous a donné plusieurs sens. Quand vous approchez une orange de votre nez, vous sentez un peu l'odeur, non? Ça sent. Quand vous voyez les couleurs, comment c'est magnifique. Quand vous voyez le goût que certaines choses comme le chocolat peut avoir dans notre langue. Et toutes les choses, on pourrait multiplier les exemples. Toutes ces choses nous montrent, sont une preuve de Dieu laissée sur la terre, qu'il existe et qu'il veut communiquer avec nous. Et celui qui ne fait aucun cas et dit « Ah, c'est beau, il va peindre la nature, etc. » mais qui ne veut pas connaître Dieu, celui-là, il est inexcusable. Puisqu'il avait en face de ses yeux la preuve que Dieu existe. Le Seigneur a laissé tout ce qu'il nous fallait pour qu'on réalise qu'il existe et qu'il veut communiquer avec nous. Et les gens, même s'il y avait ces preuves-là, ils ne veulent pas de Dieu. Ils disent « je ne savais pas ». Mais devant Dieu, ça ne tiendra pas. Et même si cet homme n'était pas au courant de ce qui allait lui arriver, ça ne l'a pas empêché de vivre cette condamnation. Je vous pose une question. Avez-vous adoré Dieu quand vous avez vu la nature? Vous êtes-vous prosterné devant Dieu, même si vous n'avez jamais entendu parler de Jésus, à la limite, mort à la croix pour vos péchés? Est-ce que lorsque vous voyez la nature, même nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes chrétiens, est-ce qu'on est là, le cœur bouleversé, quand on voit ce que Dieu a fait? Le soin qu'il a pris pour placer l'homme quelque part. Il aurait pu tout faire en noir et blanc, mais il a dit, tiens, je vais faire les couleurs. Il aurait pu faire tout fade, mais il a mis du goût. Il aurait pu faire, je ne sais pas, tout avec la même forme. Il aurait pu ne pas nous donner le toucher. Il nous l'a donné. Louis, vous entendez les oiseaux chanter? Oh, la mélodie qu'ils font. Quelquefois, ils chantent un peu fort et on aimerait dormir. Mais tout ça, est-ce que ça nous pousse quand même à louer le Seigneur, à l'adorer? C'est une question qu'on pourrait poser parce que Dieu ne pourra pas entendre. Je ne savais pas. Ça ne tiendra pas devant lui. La deuxième position de ce chef, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, hâte-toi, le roi, hâte-toi de descendre. On le lit au verset 11. Akasia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi dit le roi, hâte-toi de descendre. » Est-ce que lui, il était dans l'ignorance? Qu'est-ce que vous en pensez? Il avait sûrement dû entendre ce qui s'était passé là-haut sur la montagne, non? Ça a dû faire du bruit. Il y a du quelqu'un qui a dû arriver vers le roi. Eh, roi, il s'est passé ça, ça a dû faire... Vous savez, le téléphone arabe, comme on dit, hein, ça marchait déjà à l'époque. Hein. Il a dû l'apprendre, ce chef. Et il est monté. Et lui, s'il n'était pas dans l'ignorance, vous avez vu avec quel aplomb? Le roi le dit, hâte-toi de descendre. Comment vous appelez ça? C'est pas de l'ignorance. Moi, j'appelle ça de la résistance. Cet homme, alors qu'il savait très bien ce qui s'était passé au premier... Il y va et avec plus d'aplomb encore, il exige à Élie de descendre pour lui régler son compte. Moi j'appelle ça résister. Parce qu'il sait très bien pourquoi on en est là. Il sait que le roi a reçu une réponse de Dieu. Parce qu'il est allé chercher vers les idoles et vers les faux dieux. Et ce chef malgré tout, il va monter. Et il va avoir encore plus d'aplomb. Peut-être que quelqu'un dans ce soir, à quelqu'un qui est présent, Dieu lui a dit, voilà. Tu vois cette chose que tu fais. Tu ne le savais pas, tu n'avais pas réalisé, mais je te dis que c'est pas bien. Je te dis que ça me déplaît. Et si tu ne le règles pas, tu risques de perdre ton salut, ou alors tu risques d'aller tout simplement loin de Dieu pour l'éternité, en enfer. Tu vois le péché que t'as pour lequel tu n'as pas demandé pardon, sur lequel tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas rejeté, duquel tu ne t'es pas éloigné, ça me déplaît. Si vous étiez dans l'ignorance, vous l'avez appris. Mais aujourd'hui, que faites-vous? Peut-être que vous êtes comme ce chef, dans la résistance. Si Dieu vous a déjà parlé une fois, vous avez résisté, vous résistez à Dieu. Et vous continuez, même si Dieu vous l'a dit. Et ça, c'est pareil. Dans son amour, Dieu vous parle. Et il veut vous faire réfléchir sur cette chose. Il vous dit, arrête de me résister. Arrête, parce qu'un jour, ce sera trop tard pour toi. Il y a une condamnation, il y a une malédiction. Maudit soit l'homme. Il y a un enfer. Moi, je veux pour toi le paradis, alors obéis-moi, écoute-moi. Toi qui n'as jamais voulu régler l'affaire du péché devant Dieu, règle-la ce soir, ne tarde pas. Ne résiste plus à Dieu. Dans 1 Samuel, chapitre 15, au verset 23, il est dit ceci, c'est que la résistance à Dieu est aussi coupable que l'idolâtrie. Il y a ceux qui vont vers les idoles, qui se prosternent devant des statues, ça attire la colère de Dieu, mais résister à Dieu qui vous a dit quelque chose qui lui déplaisait, qui vous a ouvert les yeux sur quelque chose, ou qui vous a dit de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, c'est aussi coupable que l'idolâtrie. Et ça attire aussi la colère de Dieu. Dans Job, chapitre 9, verset 4, il y a une question. Qui lui résistera à Dieu impunément? Qui peut dire à Dieu, lui qui est au-dessus de tout, lui qui a tout créé, qui vous a même donné la vie, qui peut lui dire, non, tu m'as dit, mais je ne veux pas. Dieu, dans son amour, nous avertit et dit, fléchis le genou devant moi. Demande pardon, arrête de me résister. Obéis-moi, je t'ai dit de renoncer à ça, je te dis d'abandonner ça, ou je t'ai dit de faire ça, ne le fais plus, arrête, ou fais ça. Il y a trois choses que je relève qui peuvent nous empêcher de donner notre vie à Dieu, de régler notre vie conformément à ce que Dieu nous demande. La première, c'est le doute. Quelqu'un peut-être ce soir, et là, ça fait plusieurs fois qu'il entend la parole de Dieu, mais peut dire, mais est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que c'est valable pour moi? Est-ce que c'est bien vrai? Ne vous laissez pas arrêter par le doute. Croyez en Dieu. Il vous aime, s'il dit toutes ces choses, ce n'est pas pour nous embêter ou nous culpabiliser, c'est parce qu'il veut nous sauver. La deuxième chose, c'est la peur d'être trompé. Peut-être quelqu'un est rentré là ce soir, il se dit, mais ça fait plusieurs temps, il se dit, mais est-ce que ce n'est pas une secte? Ah, est-ce que ce n'est pas une secte? Et c'est une bonne question. Il y a tellement de choses dans le monde, on ne peut pas jeter la pierre à cette personne. C'est bien de vérifier quand même, là où on va, là où on met les pieds. Et j'encourage tous les hommes à en faire de même. Comment on vérifie si on est au bon endroit? Dans la vraie Église de Dieu. Eh bien, en vérifiant si ce qui est prêché, c'est ce que dit la Bible. En vérifiant si ce que vivent les gens, la manière dont ils font leur réunion, c'est conforme à la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut vérifier. Le fil à plomb, le guide sur notre sentier, la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et vérifier, et puis après, avancer avec le Seigneur. Réglez votre vie avec le Seigneur. Ne vous laissez pas freiner par la peur d'être trompé. Demandez à Dieu, priez, Seigneur, si ça doit être là l'endroit que tu veux que j'aille, eh bien, confirme-moi, mets la paix dans mon cœur et vous verrez si Dieu vous la met ou pas. Cherchez la vérité, cherchez, poursuivez la vérité et quand vous l'aurez trouvée, attachez-vous à elle. Mais la vérité, au-delà d'être dans un endroit où prêchée par une certaine catégorie de personnes, elle est dans la parole de Dieu. Elle ne vous trompera jamais et vous pouvez l'emmener partout avec vous et la lire et la croire. Elle vous sauvera. Et la troisième chose, c'est l'orgueil qui peut faire que vous résistez à Dieu. Parce que quand même, c'est la honte, croire en Jésus. Moi, je suis plus grand que ça, moi j'ai autre chose. On va se moquer de moi. Je vais rentrer, je vais dire, j'ai fait la paix avec Jésus. On va rigoler, on va se moquer. Ou alors moi, pécheur, besoin de repentance, jamais. Je me suis fié à moi-même, moi j'ai pas besoin de Dieu. Arrêtez. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. Quelqu'un qui se croit grand, 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 eh bien, un jour, il va réaliser qu'en fait, il est tout petit, tout petit, tout petit, face à Dieu. On a tous besoin de Dieu. Il n'y a pas à avoir honte. Au contraire, la Bible dit ceci, c'est que c'est des hommes. Soyez des hommes. Elle veut faire de nous des hommes, des vrais hommes, comme Jésus qui n'a pas eu peur des moqueries. C'est ça, être un homme. Ne pas avoir peur du « qu'en dira-t-on ?» Mais dire « moi, voilà mon choix. » Assumer ses choix. Voilà les trois choses qui peuvent faire qu'on résiste au message de Dieu. Et la troisième attitude, il y a eu l'ignorance, la résistance. La troisième attitude qui convient à celui qui réalise qu'il a un péché à se faire pardonner, qu'il a une vie à régler devant Dieu pour pouvoir affronter l'éternité en paix, pour pouvoir rentrer dans les projets de paix que Dieu a pour lui, avec un avenir merveilleux, de l'espérance, toutes ces choses. Celui qui réalise ces choses, voilà l'attitude qui convient. Fléchir le genou devant Jésus qui est allé jusqu'à la croix, porter nos péchés. À la croix, Jésus, il a porté nos péchés à chacun. C'est ça le message de l'évangile. Si nous sommes tous pécheurs devant Dieu parce qu'on a tous menti au moins une fois, on peut tous être sauvés par une seule personne, Jésus-Christ. Il s'est chargé de nos péchés, la Bible nous dit. Il a pris toutes nos iniquités, toutes nos fautes, même celles du roi Akasia, s'il avait voulu de ce salut, s'il avait voulu obéir à Dieu, qui disait qu'il fallait un sacrifice pour que nos péchés soient payés. La Bible dit qu'on est tous pécheurs et privés de l'éternité avec Dieu, privés du paradis, de cette espérance et de cet avenir que Dieu veut répandre sur chacun. On est tous au même rang. Dieu est juste, on est tous pareils. Le riche, il n'est pas plus coupable qu'un autre. Le pauvre, pas plus ou moins coupable qu'un autre. Tous, on est au même rang. Comme ça, tout le monde est juste. Tout est juste devant Dieu. On a tous besoin d'un sauveur, le même. Jésus s'est chargé de nos péchés. Il les a portés. La Bible dit que pour le pardon, pour que le péché soit pardonné, il fallait que quelqu'un meure et verse son sang. Et c'est Jésus qui l'a fait. Courageusement, en homme, il n'a pas eu honte de porter nos péchés. Et il a été cloué à la croix. Il a été tué. Il a versé son sang à ma place, à votre place, pour que tous nos péchés puissent être pardonnés. Lui qui n'a jamais péché, il a porté les péchés du monde entier. Et puisqu'il a payé à notre place, il a payé pour nous, tous ceux qui croient au nom de Jésus, qui croient qu'ils peuvent les sauver, tous ceux qui croient qu'ils peuvent trouver le pardon de leurs péchés, car Jésus est mort à la croix pour eux, alors ils obtiennent, à cause du sang de Jésus, le pardon de tous leurs péchés. Ça paraît bête, ah bon, que ça? Simplement ça, à Jésus, c'était pas simple. Ça lui a coûté cher. Il s'est fait cracher dessus, cracher au visage. Il a été fouetté, meurtri dans son dos, au point que sa chair est devenue visible. Il a une couronne d'épines qu'on lui a enfoncée dans le crâne. Ah, tu es un roi? Tiens, on va te mettre une couronne. Paf, une couronne d'épines. Et comme si ça ne suffisait pas, on a pris un roseau qu'on lui avait fait et qu'on lui avait donné en sceptre et on a tapé sur sa tête pour que les épines s'enfoncent. Son sang a coulé. Et comme si ça ne suffisait pas, comme la Bible l'avait prédit 800 ans ou 700 ans avant, il a été élevé sur une croix, comme les Romains tuaient les gens avant. La peine de mort, c'était pendu sur le bois, sur une croix. Les mains clouées, les pieds cloués. Son sang s'est versé. On lui a percé le côté Il a souffert, il a agonisé et il est mort. Il n'a pas simplement souffert, il a donné sa vie pour que vous puissiez, vous, être sauvés et avoir la vie sauve. Non pas seulement la vie sur terre, mais surtout la vie de l'éternité, rentrer dans les projets bénis de Dieu. Voilà le message de l'évangile, la bonne nouvelle. Et regardez avec moi au verset 13 ce qu'a fait ce chef. Acasia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Et ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, vous avez vu ce que j'ai fait, hein, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, « Homme de Dieu, que ma vie je te prie et que la vie des 50 hommes, tes serviteurs, soient précieuses à tes yeux. » Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Il a fléchi le genou devant Dieu. Il s'est humilié devant Dieu. Puisque Élie représentait Dieu sur la terre. À l'époque, il y avait besoin d'un représentant. Mais depuis que Jésus est mort à la croix, plus besoin d'intermédiaire. Dieu, il dit qu'il répand son esprit en chacun de nous. Et on peut avoir une relation directe avec Dieu puisque le péché a été expié en Jésus. Et pour être sauvé, il faut se repentir, il faut s'humilier devant Dieu. Ce n'est pas se mettre à genoux physiquement simplement, ça ne ressemblerait à rien, ça ne serait qu'une recette. Mais Dieu nous dit dans notre cœur, humilions-nous devant Dieu, lui qui est saint et qui a horreur du péché. Humilie-toi, fléchis le genou au moins dans ton cœur et prie comme l'a fait cet homme. Je te prie. Que ma vie soit précieuse à tes yeux. Ah, il n'a pas étalé la grande prière, pardon pour mes péchés, etc. Mais c'est ça que voulait dire un peu la prière de cet homme, le brigand à côté de Jésus. Souviens-toi de moi, il a juste dit ça. Un homme était crucifié à côté de Jésus, lui parce qu'il avait tué quelqu'un. Il disait à Jésus une simple prière. Souviens-toi de moi lorsque tu entreras dans ton ciel. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Si vous réalisez que vous êtes pécheur, perdu à cause de vos péchés, séparé de Dieu pour l'éternité, que vous vous humiliez et que vous croyez que Jésus, pour vous ouvrir le ciel, a payé pour vos péchés, alors vous pouvez rentrer dans ses projets, dans ses plans, dans cet avenir béni de Dieu. Amen. On est tous coupables, mais par la repentance, on obtient la grâce, le pardon pour nos péchés, à cause de Jésus qui a payé pour nous sur la croix. Dans 1 Samuel 15, 23, tout à l'heure, je vous ai dit que la résistance était aussi coupable que l'idolâtrie. Mais juste avant, il est dit la désobéissance est aussi coupable que la divination. On a tous désobéi à Dieu. Ne serait-ce que pour un commandement. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Est-ce que vous avez servi Dieu depuis toujours? Est-ce que vous l'avez adoré que lui? Est-ce que vous l'avez vraiment adoré de tout votre cœur? Non. Donc il y a moins une loi que vous avez transgressée. Et vous avez vous aussi besoin du pardon de Dieu. Un avenir béni Dieu nous propose. Si vous lisiez, je n'ai pas le temps, dans Ésaïe chapitre 11, si vous lisiez ce qui nous attend à ceux qui ont choisi de se repentir et de suivre Jésus qui s'est donné pour vous, il est dit que le loup sera avec l'agneau. Il y aura un endroit, Dieu va mettre une paix sur la terre, un jour, quand il reviendra. Le loup sera avec l'agneau, la panthère sera à côté de l'agneau aussi. Le bébé, il est dit que le bébé jouera avec le serpent, la vipère, la spique, etc. Et qu'il n'y aura point de mal. Il y aura la paix, pourquoi? Parce que la terre entière sera remplie de la connaissance de Dieu. Il y aura un lieu où il n'y aura plus de mal, plus de pleurs, plus d'angoisse, plus de dépression, plus de blessures parce qu'on est tombé par la fenêtre de la chambre haute. Plus de tout ça, plus de maladies, plus de péchés, plus de peine, plus de mort. Plus rien de tout ça, plus de tristesse. Que la paix, le bonheur pour l'éternité. Et si quelqu'un veut de cet avenir-là, si quelqu'un veut l'assurance que Dieu lui prépare, Jésus lui prépare une place dans le ciel, alors repentez-vous. Ne dites pas « je ne savais pas ». Ne dites pas « eh bien moi j'en veux pas, je résiste ». Dites à Dieu, je m'humilie devant toi, je me reconnais pécheur, j'ai besoin de toi. Je crois que Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Alors aujourd'hui, je réclame que le sang de Jésus me lave de tout péché. J'ai besoin de toi, Jésus. Sois mon sauveur et je te choisis comme mon Seigneur, comme mon Maître. Tu vas m'aider, tu vas me guider par ta parole et tu vas m'emmener jusqu'au ciel avec toi. Même si je meurs sur cette terre, je sais que tu me ressusciteras et tu m'emmèneras dans le ciel pour la paix et l'éternité avec toi. Amen. Seigneur, peut-être ce soir tu as parlé à quelqu'un, je le crois. Je crois que tu ne te lasses pas de pardonner, tu ne te lasses pas de parler. Tu es un Dieu qui veut communiquer avec l'homme, tu l'as créé. Ce n'est pas pour le laisser l'abandonner sur cette terre et vivre selon les circonstances, victime des circonstances, mais tu nous as fait à chacun pour être avec toi, non seulement sur la terre près de toi, par la foi, mais surtout en vrai et visiblement, physiquement, Seigneur, pour l'éternité avec toi dans le ciel. Et sur cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux que tu vas créer. Je t'aime, Seigneur, pour tout ce que tu as fait à la croix. Je t'aime pour tout ce que tu nous proposes encore ce soir, d'aller plus loin avec toi, d'être pardonné, de vivre une expérience nouvelle avec toi et de rentrer dans ta présence, sans honte, pardonné de tout péché. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire encore dans ces moments qui vont suivre. Que ton nom soit béni pour tout, Seigneur, et pour ta parole qui nous enrichit, qui nous parle de toi. C'est comme une lettre d'amour et je te dis merci de nous l'avoir laissée. Amen. Amen.